Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Je voulais vous introduire une question qui concerne effectivement le ruban de Möbius et ensuite la bouteille de Klein. Vous savez que le ruban de Möbius est un ruban qui se ferme sur lui-même, mais avec une particularité, c'est que la face intérieure du bouclage va rejoindre à un moment donné. Va se transformer en la face extérieure du bouclage. Autrement dit, il va y avoir une rotation de 180 degrés de la partie supérieure sur la partie inférieure, de la partie extérieure sur la partie intérieure. Donc en fait, ça illustre par là, je pense, la bouteille de Klein qui, de la même manière, où sa face intérieure, son corps intérieur va. Être troué par le corps extérieur, enfin vice-versa. Enfin, la bouteille de Klein, pour moi, est une adaptation en trois dimensions du ruban de Möbius, qui déjà lui-même est en trois dimensions, mais qui est une fausse trois dimensions, le ruban de Möbius. C'est en fin de compte, ce qu'on appelle dans les mathématiques la topologie. Ce sont les objets mathématiques qui ont des propriétés géométriques en trois dimensions, et que Lacan va reprendre dans ses séminaires pour. Situer la question du savoir inconscient, de la demande et du désir. Donc effectivement, sans parler de tout ça, je voudrais venir directement droit au but à l'objet de ce séminaire si présent, qui sera assez court, je vous assure. C'est qu'en fait, eh bien, le corps que nous avons, ce n'est pas le corps biologique, c'est le corps imaginaire. Et donc, ce corps imaginaire ne sépare pas un monde intérieur clos d'un monde extérieur infini. Bien au contraire, l'effet de bouclage, comme on va retrouver dans la bouteille de Klein, va faire en sorte que par ce biais-là d'illustration mathématique, eh bien, notre corps intérieur, si vous voulez, étant vase communicant en quelque sorte, on pourrait dire comme ça, avec l'environnement extérieur. Là, je simplifie vraiment au couteau, vraiment au maximum, c'est un couteau, je veux dire, je taille au couteau, vraiment, je fais des grosses entailles, enfin, je fais un découpage vraiment extrêmement simpliste et à la limite grossier de la théorisation de Lacan, évidemment, sur la question du corps imaginaire, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que, effectivement, nous ne sommes liés à nous-mêmes que par le biais de notre corps imaginaire. Et là-dessus, si vous voulez, le discours au sens du discours social, le discours des uns et des autres, les mots, les paroles, vont nous bombarder de telle manière qu'ils vont nous impacter. Et en fait, cette zone d'impact, ça va être notre corps imaginaire, mais aussi notre corps, dira-t-on, symbolique. Symbolique, effectivement, parce que les mots, les signifiants vont prendre leur marque en tant que signifiés, et ce sont ces signifiés qui vont déterminer notre corps symbolique, qui lui-même va supporter notre corps imaginaire. Mais nous aussi, notre corps imaginaire, si vous voulez, n'est pas que supporté par le corps symbolique, c'est le corps symbolique lui-même qui est aussi supporté par le corps imaginaire. En tout cas, notre corps organique, notre corps matériel, si vous voulez, est en césure, si je puis dire, avec ce corps imaginaire symbolique, parce que ce qui va s'y passer, ça va être un univers mental, un univers qui va être fait de discours, et donc, si vous voulez, au cours de notre vie, selon les vents et marées, au gré des vents et marées de nos contingences, de nos fréquentations, de nos positions dans la société, de notre évolution de cette position dans la société, eh bien, effectivement, notre exposition va différer. Et elle va dif notre exposition va différer devant. Tant de choses, c'est-à-dire des autres, de notre environnement, de notre milieu socio-professionnel, etc. Et donc, effectivement, notre univers mental sera joué, comment dirais-je, oui, sera joué par cette géométrie variable de notre environnement socio-économique. Et donc, avec des gens différents qui nous bombarderont différemment, au gré des vents et marées. Voilà. Donc, c'est pour ça que il n'y a que véritablement notre corps imaginaire qui est le plus, je dirais, entre guillemets, mou, si vous voulez, et offert aux élastiques de la société, et dont lui-même est un peu en position d'élastique, si vous voulez. Il peut se dilater, se rétracter, il peut ça, c'est le corps, j'entends bien, imaginaire. Et dont la particularité de ces objets mathématiques que sont Brébeuf et la bouteille de Klein chez Lacan, c'est pour illustrer que l'intérieur communique en vase communicant avec l'extérieur sans que nous nous rendions compte dans un passage qui passera inaperçu, comme une enveloppe sous le tapis, je ne saurais comment dire. Mais c'est par ce truchement, ce jeu de topologique où l'objet va être torsadé d'une certaine manière, tordu d'une certaine manière, qu'en fin de compte, la boucle restera bouclée, on sera dans un cercle parfait. On sera dans un mouvement circulaire parfait qui fait que nous avons même l'impression que du point d'aperception où nous sommes apposés sur ces objets, si je puis dire, si nous étions encore un personnage en deux dimensions sur ces objets, fait que de toute façon, nous ne nous rendons même pas compte de la courbure de ces objets, ni du roman de Möbius, ni de la bouteille de Klein, et qui fait que de toute façon, si vous voulez, cet aspect assez radical dans la théorie de Lacan, c'est qu'effectivement, à partir de là, nous sommes fous. Nous sommes fous parce que nous sommes trompés par notre corps, si vous voulez. Et quand je dis notre corps, c'est entre parenthèses, sur le plan imaginaire et symbolique, encore plus entre parenthèses. Donc, si vous voulez, les progrès de la médecine sont fulgurants. Mais ils ne toucheront jamais, si vous voulez, à la dimension du corps en tant que tel, en tant que corps imaginaire, entre parenthèses, parce que, bien évidemment, il y a chez le sujet parlant, une dimension qui occasionne, par le fait qu'il parle, d'un corps symbolique imaginaire. Et que ça, la médecine ne peut pas le capturer comme un catcheur qui viendrait comme ça bloquer sa proie ou que sais-je, son rival, le paralyser comme c'est que ses gros bras et ses grosses jambes et son torse et ses muscles. Eh bien, la médecine ne pourra jamais capturer cela. C'est-à-dire qu'il faut attendre la venue de la psychanalyse post-freudienne, hein, la psychanalyse lacanienne, pour aller plus loin que Freud, c'est-à-dire de comprendre qu'avec l'apport de la topologie mathématique, on peut comprendre comment dire, l'existence, si je puis dire, de ce corps imaginaire qui est essentiel pour guérir véritablement les sujets qui sont en psychanalyse, qui sont sujets à des malaises, si je puis dire, en termes d'identité, à un moment donné de leur vie, dans une conjoncture particulière. Et donc, c'est pour ça que là, effectivement, il peut y avoir, sur le plan d'identité, des problèmes. Je ne vais pas partir dans toutes les directions, je voudrais juste rester sur le sillon de ce corps imaginaire. Et donc, effectivement, tout à l'heure, je regardais ma vaisselle, dans mes meubles. Et je voyais ces conteneurs, ces sortes d'objets un peu évasés comme ça, une sorte de un peu conique comme ça, avec des ouvertures très larges sur les côtés, enfin toutes sortes de formes de déclinaisons, d'évasements, de si vous voulez, c'est-à-dire de cônes, un peu de cylindres modifiés selon une esthétique qui pouvait dater d'une époque plus ancienne, disons voilà, avec des courbures. Et donc, je me disais, il y a bien, on voit bien que la partie extérieure de ces objets, si je puis dire, se manifestant comme une sorte d'excavation, je sais pas si on peut dire une excavation, en tout cas comme quand on dit qu'il y a, si vous voulez, des miroirs qui sont, on dit, concaves et convexes, voilà. Eh bien, dans ces objets-là en porcelaine que j'ai vus, enfin, eh bien, il y a une dimension convexe et concave. Donc, les bords si vous voulez, d'un bol un peu spécial avec une certaine ondulation, on va dire que les bords extérieurs sont convexes, et puis dès qu'on rentre à l'intérieur, ça va être concave. Oui, sauf que le passage du convexe au concave, on ne le voit pas, il est invisible. Enfin, il n'est déterminé que par notre sens à nous, de la perception. Mais en même temps, là où est la ligne de crête, si vous voulez, c'est les bords du vase ou les bords du bol qui vont faire la séparation entre la partie extérieure et la partie intérieure, concave et convexe. Donc c'est là aussi où on va trouver, si vous voulez, comme un personnage qui se déplacerait sur les bords extérieurs du bol ou du vase et qui va rentrer progressivement à l'intérieur du bol du vase, etc. Et puis il va en ressortir, vous voyez mes mains comme ça, il va en ressortir du concave, de la partie concave pour aller sur la partie convexe. Évidemment, ça peut paraître un peu être du charabia, ce que je dis comme ça, pour ceux qui ont un peu de mal avec la perception tridimensionnelle, un peu comme ça, de ces objets. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour quand même essayer de comprendre d'une manière, ici dans ce mini-séminaire, si je puis dire très rapide, ce que c'est que ce corps dans la psychanalyse. Hein. Donc pour le résumé, le corps dans la psychanalyse, ça n'est pas le corps de la médecine, ça n'est pas le corps qui est régulé de lui-même et qui est aussi régulé par des médicaments, qui est régulé par un bombardement, si je puis dire, de rayonnement, de chimie, de particules ou je ne sais trop quoi. Non. Ce corps-là, dans la psychanalyse, par contre, lui, il ne peut pas être saisi par la médecine, il ne peut pas être autrement dit saisi par le discours de la science. Encore toujours est-il que la médecine faisait partie des basses sciences, tout comme l'algèbre pour Jana King, alors que les hautes sciences, à l'époque du 18e siècle, ou 18e ou 17e, c'était les hautes sciences, c'était la physique, c'était les sciences physiques, c'était les sciences astrophysiques, etc. Mais c'est encore que, à notre époque, vous voyez, ça ne tient plus, parce qu'il y a une multiplication de types de sciences qui fait qu'elles sont toutes reliées au développement des méthodes informatiques. Donc, oui, on est dans un paradigme beaucoup plus complexe, et donc, c'est pas le même paradigme, comme ça, un peu mécaniciste, etc. Donc, effectivement, le discours scientifique, c'est-à-dire autrement dit ce qu'on appellerait nous les neurosciences comme étant des sciences, bah, comporte un trou, un vide. Il y a une bulle ou un vide, si vous voulez. C'est comme si nous faisions rencontrer deux disques. L'un qui serait le grand autre de la science, le symbolique pur, hein, avec la logique, le logos, etc. Puis de l'autre, eh bien, le sujet, l'espace du sujet, l'espace du discours du sujet, si je puis dire, avec le désir du sujet. Et que lorsque ces deux cercles se superposent, eh bien, la partie commune entre ces deux cercles n'est autre qu'un vide, car il y a une disjonction, une impossibilité de coalition, de conjugaison, de conjonction, de fusion entre le grand autre symbolique de la science et puis l'espace du sujet au niveau de son désir et de son réel, si vous voulez. D'ailleurs, le réel se manifestera très particulièrement dans la partie commune de ces deux espaces. Car effectivement, le réel est un trou dans ce grand autre. Autrement dit, le corps dans la psychanalyse est un trou dans le discours de la science et dans le discours de la médecine, etc. Donc, nous évoluerons vers des méthodes, je vois bien, comportementalistes, les fameuses TCC, thérapies comportementales cognitives. Nous évoluerons vers des pratiques toujours plus mécanistes, toujours plus cognitivistes, c'est-à-dire des dimensions mécaniques, hein, vraiment, de façon de comprendre le sujet, l'humain. Mais ce n'est pas la bonne route. Moi, je dis que ce n'est pas la bonne route, car ça ne fait que renforcer. Le glissement, le slide, si vous voulez, sur ce corps, entre parenthèses imaginaire et symbolique, dans la psychanalyse. Le corps dans la psychanalyse, fait obstacle, fait barrage en quelque sorte à ce corps qui est donc transparent dans le grand autre de la science, parce qu'effectivement il y est en toutes ses parties, en tous ses points, nommé toujours quelque chose en termes de signifiant. Il y a toujours un signifiant qui va représenter une partie, une sous-partie de ce corps biologique, etc. Donc, le corps, dans la psychanalyse, lui, c'est bien évidemment une toute autre affaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être saisi, englobé, contrôlé, si vous voulez, par ce discours de la science. Enfin, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur ce séminaire et j'espère vous avoir intéressé sur... enfin, de vous avoir invité à des réflexions entre guillemets épistémologiques sur la, enfin, la, un peu l'axe de Lacan, de Jacques Lacan. Et effectivement, Lacan n'aurait pas fait grand-chose si Freud n'avait pas été là. Enfin, ça, c'est raisonnement. Avec des si, on met pas une bouteille, et etc. Ça fait des dystopies, des dyschronies, etc. Mais effectivement, il n'y a eu du Lacan que parce qu'il y avait du Freud. Parce que faut quand même comprendre que même si Freud, bien sûr, ne touche pas aux questions de topologie mathématique, et bien évidemment que chez Freud va se poser la question du moi, l'idéal du moi, va se poser la question de quand même d'un grand autre qui sera dessiné, la question de l'inconscient sera extrêmement étayée chez Freud, etc. Et effectivement, le malaise en situation, c'est-à-dire que la question effectivement du symbolique par rapport à l'Œdipe dans ce que c'est dans l'Œdipe qui figure comme un peu un ordre social dans la société, effectivement toutes ces questions-là sont la base, le plancher, et plus encore la cité dans laquelle va s'immiscer Jacques Lacan pour échafauder encore plus haut des sommets des gratte-ciels qui vont aller encore plus loin, etc. Donc voilà, je vous laisse sur ce séminaire, voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.